Les informations, Lévin Binga.
Au sommaire de ce journal, alerte à la situation humanitaire déplorable au centre du Katanga. 120 000 déplacés y attendent toujours une aide alimentaire d'urgence, prévient OCHA. Entre-temps, les opérations de l'armée se poursuivent. Déception des abonnés de la régie de distribution d'eau à Matadi. À la base, la surfacturation de la consommation d'eau. Le chef d'agence justifie ce fait par la mise en marche d'un nouveau groupe motopompe. Sport enfin, retour à la case départ. Les lions Simba en Swahili redeviennent les léopards. Ce, conformément à la nouvelle constitution de la RDC. Dans ce journal, les explications du président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari. Bonjour à tous. Situation humanitaire préoccupante dans le centre du Katanga. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU en RDC, 120 000 déplacés attendent une aide alimentaire d'urgence dans cette région du sud-est de la République démocratique du Congo où des opérations de l'armée se poursuivent. Si aucune distribution n'est faite rapidement, le taux de mortalité et de morbidité connaîtra un fort accroissement, a prévenu OCHA. On écoute Daniel Augustberger, chef intérimaire de OCHA en RDC. Il a été joint par Kipela Mondo.
Cette situation du Katanga s'est fortement péjorée depuis la mi-2005 avec une accentuation de l'urgence humanitaire à partir d'octobre, ce qui amène aujourd'hui à un chiffre de 120 000 déplacés dans cette région. Le problème essentiel qui se pose, c'est bien sûr un problème de sécurité pour la population civile. La population civile est prise en otage entre les différentes parties au conflit dans cette région du Katanga, donc qui se situe à l'est du parc d'Upemba, et elle ne peut ni aller cultiver, elle est systématiquement harcelée. En plus, on a une situation bien sûr de sécheresse qui a rendu les deux dernières récoltes extrêmement déficitaires, des accès à l'eau qui restent extrêmement problématiques, et finalement une assistance alimentaire, une assistance humanitaire qui est extrêmement difficile à acheminer vu les conditions du terrain. Toutes les mesures, je pense, sont prises aujourd'hui pour qu'on ait une meilleure vision de cette situation d'une part, et qu'on puisse continuer à assister cette population civile.
Autre appel lancé, c'est celui de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda, à Kisantu, dans le Bas-Congo. Près de 150 familles sinistrées par des inondations dans cette cité ont besoin d'aide urgente des ONG locales et internationales pour soulager leurs souffrances. Gonda et le vice-gouverneur du Bas-Congo, Deon Koussou, sont arrivés hier jeudi à Kisantu pour apporter les premières aides d'urgence. Pour rappel, de grosses pluies se sont abattues sur cette cité depuis le début de cette semaine et ont fait déborder la rivière Nkisi. On écoute Antoine Gonda au téléphone de Jeune Kabambi.
Il y a plus ou moins 150 familles de sinistrés, victimes finalement de cette inondation de l'eau de la rivière Nkisi. L'état de santé, bon, on dirait que pour le moment, elle est quand même assez précaire s'il n'y a pas une assistance digne de ce nom. Alors, on a pu donner une assistance alimentaire. Mais maintenant, c'est plutôt une assistance hygiénique. Et puis, il faut très, très vite aider les familles parce que là, maintenant, ils sont dans les paroisses. Il y a trois paroisses et une école où on a installé, on a réparti ces familles. Puis, il faut très vite réagir pour éviter les maladies telles que choléra, malaria, parce que là, l'état des lieux, je ne pense pas que ce soit recommandable qu'on puisse laisser la population. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des ONG humanitaires qui puissent venir sur les lieux, qui ont déjà cette expérience, pour pouvoir assister, emmener par exemple des médicaments, faire un état. J'ai fait un état des lieux. Il faut vraiment des produits de première nécessité pour pouvoir désinfecter, désinsectiser, pour permettre finalement à ceux qui veulent aider et permettre aussi à ces familles de pouvoir recouvrer leurs biens et puis qu'ils puissent éviter les contaminations.
Bena Tshitolo, toujours théâtre des règlements de compte au Kasaï oriental. Dernier événement en date, 87 maisons brûlées en deux jours dans ce village situé à environ 50 km au nord de Mbujimayi. Notez que des affrontements ont opposé les membres d'une même famille il y a trois semaines après la découverte d'un gisement de diamants. Le bilan faisait état de deux morts et plusieurs blessés. Écoutez le commissaire de district Alexandre Biaya Moutoke. Il est au micro d'Esther Ndalafina.
La nuit de jeudi au vendredi et la nuit de samedi au dimanche. Il y a eu 65 maisons brûlées. Le dimanche, pendant qu'ils ont confectionné le rapport, on fait encore état d'une vingtaine de maisons brûlées. Au total, 85 maisons incendiées dans deux jours, dans deux nuits successives. faute d'éléments de la police pour nous donner la précision. Maintenant, nous avons demandé à la justice et à la police de continuer le travail pour traquer d'abord les auteurs et les co-auteurs, même les commanditaires, pour qu'on mette dans le secteur de Tidolo une vingtaine ou une trentaine de policiers pour sécuriser la population. C'est une tâche difficile pour nous parce que nous avons affaire encore à des gens qui utilisent la barbarie comme mode de gestion du conflit.
Direction Maniema, environ 100 militaires sont partis de Pugna dernièrement pour Kindu. Ces militaires qui transportent armes et bagages arrivent dans le chef-lieu pour un regroupement au camp Louama en attendant leur départ pour le centre de brassage. Pour éviter tout dérapage, le major Serge Mutagaza, commandant de la 73e brigade basée à Pugna et Lubutu, explique quelques mesures prises. Il demande notamment aux militaires de ne pas tracasser les populations. On l'écoute.
Les militaires sont les militaires de la brigade, disons qu'ils vont en regroupement au camp Loama en attendant le passage. Nous avons pris des mesures, c'est-à-dire les militaires qui partent sont sous commandement de responsables. Et nous nous sommes entendus qu'ils partent, qu'ils ne tracassent pas, qu'ils ne fassent pas porter les bagages à la population. Lors même de la réunion de sécurité, nous sommes entendus que les paisibles citoyens puissent vaquer à leurs occupations et laisser les militaires partir jusqu'à destination. Il y a deux temps, ceux d'aujourd'hui sont partis de Pugna vers Kindu. Il y aura un autre mouvement qui partira de Mungele, Lubutu, Pugna, Kindu dans une semaine.
Trois nouvelles brigades intégrées, celles de Kitona, Rumangabo et Nyaleke, vont terminer leur formation dans ces centres de brassage début mars prochain pour leur futur redéploiement. Affirmation hier jeudi du ministre congolais de la Défense, Adolphe Onusumba, qui s'exprimait en marge de la fin de la visite de son homologue portugais, Luis Amado, en RDC, a expliqué les raisons du retard pris dans la formation de nouvelles unités brassées des FRDC, unités appelées à sécuriser le processus électoral congolais. Adolphe Onusumba est au micro de Jeune Kabambi.
Nous avons connu des retards pour la deuxième vague. Nous sommes en retard, mais d'ici à la fin du mois de mars, nous allons pouvoir avoir 6 brigades qui vont être déployées et qui a déjà des éléments. Tous ceux-là qui passent par les centres de regroupement, les centres d'orientation, nous avons déjà une centaine d'éléments qui sont à Kitona qui attendent de commencer la troisième vague. C'est-à-dire que l'immensité de notre pays, le manque d'infrastructures, les contraintes, le respect des activités des troncs communs entre la démobilisation et la réinsertion ont fait que nous devrions mettre autant de temps. Et vous avez parlé des militaires qui ne sont pas payés. Il y a les éléments portugais qui sont dans le SEC, qui sont dans la sous-commission de finances, c'est-à-dire la gestion administrative et financière des forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous essayons de travailler pour que leurs conditions de travail puissent être bonnes.
De son côté, Luis Amado, ministre portugais de la Défense, a indiqué à la presse qu'il faudra attendre lundi prochain pour connaître la position de son pays lorsque l'Union européenne va se pencher sur l'envoi probable des troupes de l'Union en RDC pour la sécurisation du processus électoral. Et puis, fusillade hier matin à Kinshasa, précisément au quartier Luboudi, dans la commune de Bandalungwa, 3 personnes ont été abattues par un soldat en civil. Ce dernier tentait de se défendre des éléments de la police et des habitants qui le poursuivaient. Ceci après avoir blessé par balle un receveur qui lui réclamait de payer son ticket. Dans sa fuite, le militaire s'est donné la mort. Toujours hier, dans le même quartier, le corps d'un étudiant de l'ISC a été retrouvé sur l'avenue Bakongo. Aucune trace de violence n'a été observée sur la dépouille. Un officier de la police d'intervention rapide chargé de l'enquête résume cette double affaire. Il est au micro de Thérèse Bassoubi.
C'était aux environs des 4h du matin que nous étions alertés par nos services. Et vers 5h du matin, je suis moi-même descendu sur terrain. Et nous avions enregistré des cas tout à fait différents. D'abord, le premier cas sur l'avenue Bakongo. Nous avions trouvé un corps gisant sur le sol de monsieur Kaika Mutombo Tonton. Il est étudiant à l'ISC en deuxième graduat marketing. Bon, c'est un cas qui nous paraît un peu suspect dans la mesure où il n'y a ni de traces de balles, ni de contusions sur son corps. Nous sommes sommes en difficulté pour pouvoir déterminer avec exactitude les circonstances de sa mort. Il n'y a que le médecin légiste qui pourra les déterminer. Pour le cas de la fusillade, tout est parti de Camp Luka. Un homme en tenue civile armée a tiré sur un réservoir de minibus à la cuisse. Alors la population s'est mise à la pourchasser. C'est ainsi qu'il se mettait à tirer en désordre. Et lui-même s'est donné aussi la mort. Aujourd'hui, nous avions enregistré 4 cas de morts et un blessé.
7h10 à Kinshasa, rebondissement de l'affaire de vente illicite des poutrelles de l'Onatra servant à la réparation du port de Matadi à l'entreprise Meli Congo. Meli Congo, par le biais de son avocat conseil, reconnaît avoir acheté ces matériaux, mais l'opération, selon elle, s'est faite auprès des responsables de l'Onatra en toute légalité. Maître David Chomba est au micro de René Capita.
Nous avons acheté à bonne et due forme le poutrelle auprès de l'Onatra. Meli Congo avait cédé à Tony Metal et Tony Metal avait cédé à Hydrometal et Hydrometal qui le livre à la Régie des Eaux. Et nous avons devant nous, avec moi, toutes les preuves de paiement qui n'ont été effectuées entre les mains d'un individu, mais nous avons traité avec le service compétent de l'Onatra qui nous ont livré même le reçu et le facture. Donc c'est à tort qu'on incrimine Meli Congo comme acheteur de poutrelles volées.
Donc, vous confirmez que Meli Congo a acheté ces poutrelles en bonne et due forme.
En bonne et due forme, nous avons le facture, nous avons le reçu de perception d'argent qui était entré dans la caisse de l'Onatra et ce n'était pas entre les mains d'un individu que Meli Congo aurait versé cet argent.
Autre nouvelle inquiétude des abonnés de la régie de distribution d'eau à Matadi dans le Bas-Congo. Ils protestent contre la surfacturation de la consommation d'eau. Ces clients de la régie des eaux affirment payer actuellement le double du prix payé habituellement. Pour le chef d'agence de Matadi, cette situation est occasionnée par la mise en marche d'un nouveau groupe motopompe. Explication, Guy Roger Niampala.
Ces clients de la régie des eaux Matadi disent ne pas comprendre les raisons de cette surfacturation. Selon eux, rien ne peut justifier la hausse, d'autant plus que la plupart d'entre eux ne disposent pas des compteurs qui quantifient la consommation mensuelle de tout un chacun. Pour sa part, le chef d'agence de la régie des eaux Matadi, Mafoma Sumbu, reconnaît que le prix à payer par les abonnés ont effectivement été revus à la hausse. Raison évoquée par ce dernier, la mise en marche récemment d'un nouveau groupe motopompe qui, selon lui, a amélioré le niveau de distribution d'eau auprès de ses abonnés. À propos de ceux de leurs clients qui n'ont pas des compteurs, il a déclaré que la livraison de cette pièce est gratuite et qu'il faudra seulement introduire une demande auprès des agences locales et l'obtenir sans problème. De Matadi, Guy Roger Niampala, Radio Okapi.
La pêche responsable au cœur d'une conférence de 2 jours tenue à Mbandaka. Les participants ont réfléchi sur les problèmes qui se posent dans ce secteur en vue d'améliorer cette activité et de valoriser le métier des pêcheurs. Cette table ronde, qui est une grande première dans ce domaine en RDC, a réuni les pêcheurs de Mbandaka, du fleuve et de ses affluents, ainsi que les services de l'État qui œuvrent dans ce secteur. La conférence est une initiative de l'ARM. Le point avec Régine Boku Manzango.
La pratique de la pêche sur le fleuve Congo et ses affluents ne tient plus compte de la réglementation laissée par l'administration coloniale. Aujourd'hui, beaucoup sont les pêcheurs qui utilisent des filets à petites mailles et recourent parfois aux produits toxiques pour capturer des poissons. La réglementation de la pêche actuellement en vigueur en RDC date de l'époque coloniale, mais elle n'est ni connue ni respectée par les pêcheurs aujourd'hui. Voilà qui justifie la table ronde de 2 jours que vient d'organiser l'ONG américaine IRM, Innovative Resource Management. Une table ronde axée sur le thème « La pêche responsable ». Par pêche responsable, l'organisateur attendait faire comprendre aux pêcheurs comment augmenter leur productivité tout en assurant la survie de certaines espèces en voie de disparition. Comme stratégie arrêtée à l'issue de ces assises, pour une pêche responsable, les participants ont demandé notamment le respect de la pêche saisonnière et l'interdiction des méthodes d'attrape des allers verts aux petits poissons. Cette rencontre a permis aux pêcheurs de poser leurs problèmes, entre autres, les manques d'intrants et le manque d'encadrement aux techniques modernes de pêche. Mbandaka, Régine Boukoumanzango, Radio Okapi.
Sport, avant de clore ce journal, l'équipe nationale de football de la RDC, les Simba, redevient Léopard. Elle reprend son ancienne appellation. Ce changement est en rapport avec la promulgation de la nouvelle constitution du pays. On écoute à ce sujet le président de la Fédération Congolaise de Football Association, Constant Omari. Ses propos sont recueillis par Kanish Mukongo Chamboui.
Prenons son excellence à témoin, ainsi que le peuple congolais, que nous puissions officiellement, je crois que c'est la première fois, débaptiser notre équipe nationale qui, jusqu'il y a 5 jours, pour 4 jours s'appeler les Simba et la rebaptiser au nom de Léopard, qui est en fait un ancien nom et qui est revenu à la faveur des changements politiques. Nous sommes des Africains, je crois que le chef de l'État l'a dit, le Léopard c'est le symbole du pouvoir ancestral depuis de lustres dans notre pays. Et nous osons croire que cette fois-ci, nos ancêtres seront en phase avec leur équipe nationale pour lui permettre encore de remporter d'autres trophées comme par le passé. Et nous prions Dieu afin qu'il puisse nous apporter grâce